Jésus est-il vraiment ressuscité? Quelle preuve a-t-on de sa résurrection? Est-ce seulement son âme qui ressuscite? La matière de Jésus est-elle ressuscitée? Peut-on vraiment ressusciter d'ailleurs? Que sait-on exactement du moment de la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que la foi dans la résurrection nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Bienvenue dans cette nouvelle catéchèse Padre Blog. Aujourd'hui, nous parlons de la résurrection de Jésus. Jésus est-il vraiment mort? Oui, Jésus est mort. Il est mort alors que Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Saint Paul nous dit « Le Christ est mort pour les impies. Son corps a été abandonné à la solitude d'un tombeau pendant 36 heures environ, étalé sur 3 jours. » La mort sur la croix a marqué la fin de la vie terrestre de Jésus. La résurrection survient dans la nuit de samedi à dimanche, la nuit de Pâques. L'âme de Jésus a été vraiment séparée de son corps. Mais le corps de Jésus ne s'est pas dégradé. Le livre de l'Apocalypse, par exemple, fait dire à Jésus « J'étais mort et me voici vivant ». Le temps de mort et de séparation de l'âme et du corps de Jésus s'appelle le mystère du samedi saint. Les évangiles restent dans un silence respectueux sur cet événement. Il y a un mystère, un secret de ce que le Fils de Dieu a vécu durant sa mort. L'Église professe que Jésus est descendu aux enfers. Les enfers, dont le credo parle ici, ce sont le Shéol juif, aussi appelé le séjour des morts ou Hadès. C'est un lieu d'attente à la mort d'une personne, un lieu d'attente du Messie. Dans la foi des Juifs, à l'époque de Jésus, les morts vont tous aux enfers en attendant le Messie. Ils ne sont pas au paradis puisque celui-ci ne sera ouvert que par le Messie. Ils ne peuvent pas non plus avoir été condamnés à l'enfer de la condamnation, parce qu'il n'y a pas encore eu de jugement, ils l'attendent avec le Messie. Les enfers, c'est un lieu d'attente, hors du temps. Jésus est descendu aux enfers comme sauveur. Il est descendu aux enfers pour mener au ciel les âmes des personnes qui attendaient sa venue. Beaucoup de tableaux dans les églises décrivent Jésus descendant et brisant le sol pour entrer dans les enfers. Jésus, dans ces tableaux, est déjà en vêtements blancs de ressuscité. Il tient à la main Adam et Ève pour les tirer hors de la tombe. Il y a des icônes de cela aussi. Dans sa descente au séjour des morts, Jésus vient tirer et sauver toutes les personnes qui sont mortes avant sa venue. Il vient clore ce séjour des morts. Désormais, plus personne ne va au séjour des morts puisque le ciel, le paradis, est ouvert. Ou bien, pour ceux qui refusent le ciel, l'enfer, lieu de condamnation du diable, est ouvert aussi. Après la mort de Jésus, le credo affirme que Jésus est ressuscité des morts. C'est là une affirmation absolument essentielle de notre foi. Commençons par étudier les sources de cette foi. Comment la foi dans la résurrection nous est-elle transmise? La manière dont le salut a été accompli par Jésus a surpris les hommes de son temps. Comme premier exemple, je vous propose le récit des compagnons d'Emmaüs dans l'évangile de Luc. Deux hommes marchent en s'éloignant de Jérusalem. Ils ont été des disciples de Jésus et ils sont dépités de la mort de Jésus, ils sont déçus, ils ne comprennent rien. Ils sont abattus, ils ont le sentiment d'une impasse totale. En chemin, Jésus lui-même, Jésus ressuscité, les rejoint. Il leur demande de quoi il parle. Il leur demande de raconter ce qui les attriste autant. Les deux hommes, dans cette rencontre, ne reconnaissent pas Jésus. Ils lui parlent comme à un inconnu. Ils lui disent leur tristesse, leur déception. Alors Jésus se met à leur expliquer le projet de Dieu, de mourir et de ressusciter pour accomplir le salut. Il leur explique le projet de Dieu à partir des Écritures. Par là, il leur explique le sens de sa propre mort. Il utilise cette phrase « Il fallait que le Christ souffrît ». Pour montrer que sa mort faisait partie du projet de Dieu, Jésus utilise les Écritures. Pourtant, les disciples ne le reconnaissent pas pendant cette marche. Ils ne le reconnaissent qu'à la fin de la journée, quand Jésus se révèle par une bénédiction sur le pain qui leur rappelle ce qu'il a fait avant sa mort. Ce texte illustre une chose très importante. La résurrection de Jésus est une surprise pour les hommes de son temps. Presque personne ne s'y attendait. Les évangiles parlent d'un tombeau vide et d'apparition. Dans les textes des évangiles, la résurrection de Jésus est racontée par le témoignage de ceux qui l'ont vu. Les évangiles sont le récit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Or, dans ces récits, l'événement lui-même de Jésus sortant du tombeau, cet événement n'est pas raconté. C'est un secret de Dieu. Ce qui est raconté, c'est l'expérience de ceux qui sont allés au tombeau dès le dimanche matin. En effet, le samedi, c'était le jour du sabbat, du grand sabbat, que tout le monde a respecté. Le dimanche matin, donc, des femmes vont au tombeau et elles le trouvent vide. Deux anges seulement leur apparaissent et leur parlent. Les femmes sont surprises. Elles vont raconter cela aux disciples de Jésus et aux apôtres. Ceux-ci vont au tombeau, ils le trouvent vide, ils sont surpris. Ils le trouvent même rangé. Après cela seulement, Jésus apparaît plusieurs fois aux apôtres, à Marie-Madeleine, aux disciples. Chaque évangile rapporte les apparitions qui lui semblent les plus importantes. Parmi ces apparitions, on en note deux qui sont particulièrement importantes. L'apparition aux 11 apôtres et l'apparition à Pierre, comme s'il y avait un statut plus officiel de ces apparitions, un statut d'authentification. Ce que l'on remarque le plus rapidement en lisant les récits de la résurrection, c'est la difficulté des auteurs bibliques à décrire l'expérience de Jésus ressuscité. Presque à chaque fois, quand Jésus apparaît, les disciples semblent d'abord ne pas reconnaître Jésus. Ensuite, par un échange avec lui ou par un geste de sa part, ils le reconnaissent et son identité devient alors une évidence. On comprend bien qu'il soit difficile de décrire ce qui dépasse toute notre imagination, un événement que l'on ne pouvait même pas prévoir. On comprend aussi que les auteurs des évangiles et chacun étaient marqués par un aspect différent de la résurrection. Ce qui est sûr, c'est que ces récits nous parlent de Jésus réellement présent dans sa personne et il se fait reconnaître. Les historiens non chrétiens parlent très peu de la résurrection de Jésus. L'historien juif, Flavius Joseph, par exemple, parle des chrétiens se réclamant de Jésus-Christ. Et il parle de cela plusieurs années après la mort et la résurrection. Cela suppose qu'il y ait eu une forme de victoire associée à Jésus-Christ, alors même qu'il a parlé de sa mort sur la croix. Comment peut-on être sûr que Jésus est vraiment ressuscité? Je vous propose 6 arguments montrant la réalité historique de la résurrection. Et puis, un dernier bonus à la fin. À la mort de Jésus en croix, les disciples ont tous abandonné Jésus. Ils ont eu peur pendant la passion. Ils ont fui. Certains ont même nié publiquement le connaître. Or, après la résurrection, ces mêmes personnes sortent publiquement pour annoncer cet événement. Ils en parlent sans peur. Ils en parlent paisiblement, sans esprit de revanche. Ils en parlent pour annoncer le salut offert à tous, pas seulement pour eux. Et en affirmant cela, ils sont critiqués, ils sont maltraités, ils sont mis en prison, et certains sont mis à mort. Pourtant, impossible de leur faire changer de parole. Ils affirment avec une totale assurance que Jésus est ressuscité. Ils font même des miracles en son nom. Comment un tel changement est-il possible s'il n'y a pas vraiment eu de résurrection. Pendant sa vie publique, Jésus a vu des personnes s'opposer à lui. Des personnes le dénonçaient. Or, après la résurrection, plusieurs d'entre elles deviennent d'ardents missionnaires. Ils annoncent partout et avec force que ce même Jésus est ressuscité. C'est par exemple le cas de Saint Jacques, appelé dans l'Évangile le frère du Seigneur. Il devient évêque de Jérusalem et un des premiers martyrs, un des premiers à mourir pour Jésus. Saint Paul faisait partie des pharisiens qui pourchassaient les chrétiens et qui les mettaient à mort. Il devient un missionnaire. Il subit plusieurs fois les tortures. Il est mis à mort pour la foi qu'il annonce désormais. Impossible d'expliquer tout cela sans la présence réelle de Jésus ressuscité. Le peuple juif a une histoire de plus de 2000 ans au moment de la vie de Jésus. Il a peu à peu construit des traditions et des pratiques très nombreuses, dont beaucoup sont structurantes pour le peuple et pour son identité. Par exemple, c'est grâce à ces traditions que le peuple hébreu a réussi à survivre comme tel malgré la déportation, malgré la destruction presque totale de Jérusalem à certains moments de l'histoire. Or, après la résurrection, en très peu de temps, quelques semaines tout au plus, de nombreux juifs abandonnent leurs traditions séculaires pour en ajouter d'autres. Ils adoptent de nouvelles traditions, comme par exemple, ils se réunissent le dimanche et non pas le samedi. Par exemple, ils mangent désormais de tout, sans interdit alimentaire. Ils n'imposent plus la circoncision aux personnes. Un changement de cette ampleur s'explique uniquement par un événement majeur, un événement bouleversant. Si les chrétiens avaient voulu inventer un événement pour s'en glorifier, ils auraient minimisé la honte, les mauvais comportements. Ils auraient maximisé la maîtrise des événements. Pour parler de Jésus, ils auraient pris comme centre du discours ses exploits et sa domination sur les hommes. Or, les premiers chrétiens font le choix exactement inverse. Ils insistent avant tout sur la mort de Jésus sur la croix. Comme signe collectif, ils choisissent non pas un signe glorieux, mais la croix, l'instrument de supplice sur lequel Jésus est mort. C'est complètement différent de ce qu'on retient des grands personnages militaires ou politiques. De ces personnes publiques, on cherche à retenir surtout les victoires. Pour Jésus, la gloire est tout autre. La résurrection de Jésus est l'expression de la victoire définitive de Dieu sur le péché et sur la mort. C'est le sceau de l'avènement du salut. Le salut est vraiment là. C'est cela la gloire. Pour eux-mêmes aussi, les disciples ne cachent pas leur lâcheté. Les évangiles rapportent les trahisons des disciples, leur faiblesse, leur fuite. Dire que la résurrection serait le résultat de l'invention d'une histoire glorieuse, c'est complètement contraire à l'expérience que l'on a. C'est contraire à tous les éléments historiques. Après la résurrection de Jésus, apparaît l'Église, qui est une nouvelle institution. Et cette institution grandit. Elle se répand dans tout l'Empire romain et bien au-delà. Pourtant, dans les trois premiers siècles, une personne n'a absolument aucun intérêt personnel à devenir chrétien. Les chrétiens sont interdits à de nombreux emplois, par exemple dans l'administration. Les chrétiens sont parfois persécutés. Pourtant, l'Empire romain a disparu. L'Église a continué après son effondrement. Qui aurait pu parier qu'entre l'Empire romain et l'Église, ce serait seule l'Église qui survivrait? Cet événement est contraire à tous les codes humains. Il ne peut provenir que d'une intervention de Dieu dans l'histoire. Depuis 2000 ans, à chaque génération et sur toute la terre, des personnes affirment que Jésus change leur vie. Ils affirment faire l'expérience de Jésus ressuscité, présent dans leur vie. Ils témoignent que cette rencontre change leur vie. Cette expérience, je l'ai faite moi aussi. Elle est faite par des milliards de personnes dans des cultures complètement différentes, dans des époques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Cela ne peut pas être une invention. Un dernier argument, en plus des 6 premiers, qui est cette fois très pratique. Avez-vous déjà essayé de porter un enfant qui fait le mou, qui ne veut pas être porté, qui se laisse tomber sans cesse, parce qu'il ne veut pas qu'on le prenne dans les bras? C'est compliqué à porter et à transporter. Imaginez maintenant que vous deviez transporter un cadavre adulte, avec la peur d'être observé, repéré, arrêté. S'il y a une possibilité de porter ce cadavre plus facilement, parce qu'il est lié ou parce qu'il est dans un linge, alors vous le privilégiez. Justement, quand le cadavre de Jésus a été mis au tombeau, il a été lié et mis dans un grand linge, le suaire, avec des bandelettes autour pour le tenir fermement. À la résurrection, les femmes et les apôtres découvrent le tombeau rangé, les linges pliés. Porter et transporter un cadavre non lié est très difficile. Des traces de sang auraient été visibles. Or, il n'y a aucune trace de sang sur le sol autour. Jésus est bien ressuscité dans la nuit, sans aucune intervention humaine. La résurrection de Jésus est un fait objectif advenu dans l'histoire. Ce n'est pas une conviction subjective ou une histoire inventée. La résurrection est la révélation du salut annoncé. Jésus est ressuscité le 3e jour, exactement comme il l'avait annoncé à ses disciples. C'est un projet annoncé et préfiguré. Cet événement éclaire le sens de toute la Bible. Il est très clair dans les évangiles que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection dès le début de sa vie publique. Il l'a fait par des paroles et par des gestes. Cette annonce a été très claire puisque même les chefs des Juifs l'ont comprise, alors même qu'ils s'opposent à Jésus. Au moins une fois, ils envoient des observateurs à Jésus, à un moment où justement Jésus parlait de cela. Par là, nous savons que la mort et la résurrection sont le projet de Dieu. Dieu n'a pas été surpris, il n'a pas improvisé. Depuis toujours, c'est comme cela qu'il voulait sauver les hommes. Dès les premiers chrétiens, la résurrection est vécue comme une manifestation de la puissance de Dieu, une victoire définitive. La résurrection n'est pas perçue comme une preuve que Jésus est Dieu. Les preuves que Jésus est Dieu, elles sont différentes. Nous en avons déjà parlé dans une autre catéchèse. La résurrection, c'est une victoire sur la mort et une victoire sur le péché. La résurrection, c'est l'accomplissement de tout ce qui précède. Elle est l'explication qui vient faire comprendre toute la Bible. Dieu aurait pu sauver le genre humain par un autre moyen que la passion et la résurrection. Il aurait pu choisir un moyen plus simple, plus triomphant, infiniment moins douloureux. Mais Dieu a choisi de livrer son Fils. Jésus, en agissant ainsi, manifeste de façon éblouissante son amour, sa miséricorde et sa gloire. Jésus passe par l'apparente défiguration, exactement comme l'annonçait le prophète Isaïe en parlant du serviteur subissant les souffrances. Dans la mort et la résurrection, la dimension de l'amour de Dieu nous est révélée. Dieu nous a aimés jusqu'à envoyer son Fils Jésus. Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. Dieu a la force pour vaincre la mort et pour vaincre tous les péchés. Nous le savons parce que Jésus est mort et ressuscité, justement. Au moment de sa mort, Jésus meurt et ressuscite simultanément. La résurrection n'est pas un moment second de la mort du Christ. Elle lui est intérieure. Le livre des Actes des Apôtres affirme « Il n'était pas possible que le Christ soit retenu par la mort. » En souffrant au Père sur la croix, en mourant, Jésus a traversé la mort. Il l'a transformée. La mort n'est plus une passivité que l'on subit. Elle est un acte d'abandon, un acte de don de soi au Père. Je l'ai déjà vu, moi, personnellement, en accompagnant des personnes proches de la mort. J'ai vu des personnes s'offrir à Dieu, s'abandonner à lui comme un dernier acte de leur vie, avec confiance Et pour moi, c'était bouleversant. Entre la vie terrestre de Jésus et ses apparitions comme ressuscité, il y a une continuité et une discontinuité. Il y a une discontinuité parce que Jésus peut apparaître dans une pièce alors même que toutes les portes sont fermées. Il peut s'élever au ciel. Il peut apparaître à des endroits éloignés sans avoir besoin de temps pour se déplacer. Mais il y a aussi une continuité dans les apparitions. Jésus manifeste que sa présence est bien réelle. Il est reconnu. Par exemple, il mange un poisson. Il propose à saint Thomas de mettre sa main dans les marques des clous de la passion. Il porte les marques de sa passion, de toute sa vie. Jésus est le premier homme ressuscité. Il est vraiment Dieu et vraiment homme. Si en lui, un homme a pu ressusciter, alors nous aussi nous pouvons ressusciter. La résurrection de Jésus est efficace pour la résurrection des autres. On dit en théologie qu'il est la cause efficiente et exemplaire de la résurrection des hommes. On parle de cause efficiente parce que nous ressuscitons par lui. Notre résurrection est une participation à sa résurrection. On parle de cause exemplaire parce que notre résurrection sera à son image. La résurrection de Jésus est le modèle au sens fort, pas seulement au sens de premier dans le temps et en dignité. La résurrection de Jésus, c'est le modèle ontologique fondamental sur lequel nous ressusciterons. Pour savoir comment nous serons comme ressuscités, il faut regarder la résurrection de Jésus. La résurrection du Christ, c'est l'expression de la victoire définitive de Dieu sur le péché et sur la mort. C'est le sceau de l'avènement du salut pour les hommes. La résurrection de Jésus manifeste l'amour du Père pour nous. Elle manifeste l'amour du Fils qui est prêt à livrer sa vie. Elle n'est pas un argument de la divinité de Jésus. Elle est le signe de la victoire totale et définitive. Et cette victoire, nous y participons nous aussi. Nous avons vu que Jésus est vraiment mort et qu'il est descendu aux enfers. Nous avons étudié comment la résurrection nous est racontée, comme une surprise et des apparitions. Nous avons vu les preuves de la réalité de la résurrection. Cette résurrection, elle est révélation du salut annoncé. Désormais, Dieu a transformé la mort pour nous ouvrir le ciel. Merci d'avoir écouté cette catéchèse. À bientôt sur Padre Blog.